penser et dire sa foi. Une émission proposée par Jean-Michel Poirier. Penser et dire sa foi, en dialogue avec des enseignants de l'Institut catholique de Toulouse pour mieux comprendre et communiquer la foi chrétienne.
Bonjour, nous avons comme invité pour cette nouvelle série de 4 émissions l'abbé Cyprien Comte, qui est prêtre du diocèse de Toulouse et qui vient nous parler du prophète Jérémie, qu'il connaît bien puisqu'il a écrit sa thèse de doctorat et soutenu sur le thème du repentir de Dieu chez le prophète Jérémie et qu'il donne le cours sur les prophètes à la faculté de théologie de Toulouse. Bonjour Cyprien.
Bonjour Jean-Michel et bonjour chers auditeurs.
Voilà, alors qui est Jérémie ?
Eh bien, Jérémie est connu, enfin dans le langage habituel, comme quelqu'un qui se plaint. Mais en fait, on a quand même quelques autres renseignements dans la Bible.
Oui, les fameuses Jérémiades.
C'est ça, les gens disent ça, mais en fait, c'est peut-être pas tout à fait justifié quand même. Enfin, il se plaint, mais il ne fait pas que cela. On est au 7e siècle avant Jésus-Christ et au début du 6e. Alors, on pensait souvent que Jérémie était né vers 650 avant Jésus-Christ. On peut garder ce repère, même si en fait, on n'est pas sûr que les repères historiques donné dans le livre, est vraiment une valeur de datation comme nous l'espérerions. C'est un homme qui est né dans une famille de prêtres. Alors en fait, tout ça est écrit au début du livre de Jérémie. Hein. Donc c'est intéressant pour les auditeurs. Au début du chapitre 1, il y a un titre qui parle des paroles de Jérémie. Et on dit c'est l'un des prêtres résidant à Anatote. Donc on est dans un village qui s'appelle aujourd'hui Anata, un village palestinien au nord de Jérusalem. Et quand on dit une famille de prêtres, eh bien, on a même quelques renseignements supplémentaires, puisque bien que ça soit une hypothèse, on suppose que Jérémie est le descendant de Ébiatar, qui avait été exilé à Anatote et en fait déchu du sacerdoce. Mais enfin, en tout cas, c'est une famille de prêtres, et Jérémie aura donc pas mal de liens avec le temple, même si on pense qu'il n'a pas exercé à proprement parler le ministère de prêtre.
Parce que c'est la question que j'allais vous poser, est-ce qu'il a exercé cet office ? Puisque je rappelle qu'en Israël, on est prêtre de père en fils, si je puis dire, parce qu'on appartient à des familles sacerdotales.
Mmh. On dirait que Jérémie n'a pas exercé le ministère de prêtre, et en tout cas, dans sa prédication, dans le livre qui porte son nom, on a plutôt l'impression qu'il s'est opposé, parfois violemment, à tel ou tel prêtre et au culte du temple. Voyez, si on compare avec un Ézéchiel qui arrive juste quelques années après Jérémie et qui, lui, était un prêtre qui a annoncé le retour de la gloire de Dieu dans le temple de Jérusalem, Jérémie n'est pas du tout sur ce registre-là. Est-ce qu'on peut dire quelque chose sur son tempérament, peut-être ?
Oui, alors, donc, vous nous disiez justement que dans l'expression française Jérémiade, on associait donc ce prophète aux lamentations. Alors on a parfois l'impression que c'est un être très sensible, à fleur de peau. Est-ce que c'est vrai ?
Eh bien, on dit cela, et c'est effectivement ce qui ressort du texte de son livre. Alors, comme on n'a pas d'autres documents, on essaye de reconstruire la personnalité de Jérémie à partir du livre qui porte son nom. Et du coup, on considère effectivement que c'est un homme tendre, et on dit ça dans l'introduction de ma Bible, un homme fait pour aimer, qui a été envoyé pour une mission, en fait, très dure. Et donc, on imagine pour ce personnage à qui Dieu avait demandé, c'est au chapitre 16, hein, à qui Dieu avait demandé de ne pas prendre femme et de ne pas avoir d'enfant, il est en plus envoyé pour prédire la ruine de son peuple à Jérusalem et dans le royaume de Juda si le peuple ne se convertissait pas. Et donc, il a dû beaucoup souffrir. Et en fait, le livre de Jérémie porte la trace de ces prédictions qui sont surtout des prédictions de malheur. C'est un homme qui aspirait à la paix, mais qui a été un homme de combat, de procès, et il était déchiré par sa mission. En fait, on y reviendra peut-être une autre fois, mais il a des dialogues intérieurs avec Dieu qui sont véritablement poignants. On appelle ça souvent les confessions de Jérémie, mais c'est un peu un anachronisme en référence aux confessions de Saint Augustin.
Oui, et en fait, par exemple, je pense à la fameuse phrase « Tu m'as séduit, je me suis laissé séduire ». On est assez proche d'Augustin, effectivement. J'avais jamais fait le rapprochement, mais je trouve qu'on est...
Oui, c'est assez impressionnant. Il y a une proximité avec Dieu chez Jérémie, chez le personnage principal, si je puis dire, hein, du livre de Jérémie, après Dieu, bien sûr, qui laisse penser que vraiment il entend les paroles de Dieu. On a l'impression qu'il vit même cette parole et qu'en même temps, c'est pour lui une croix, on dirait, aujourd'hui. Parce que cette mission est déchirante, il se plaint de souffrir continuellement. Et ceci dit, nous aimons lire Jérémie, notamment grâce à ces annonces de la nouvelle alliance. Voilà, ça aussi, on aura l'occasion d'en reparler.
Le fameux cœur nouveau, on en reparlera. Mm-hmm. Peut-être dire un mot aussi, le fait que la tradition grecque a placé le livre des Lamentations, qui est une grande déploration sur la ruine de Jérusalem, dans la bouche de Jérémie.
Oui, il y a une logique à cela, et cependant, les spécialistes de la Bible disent aujourd'hui que Jérémie n'est sans doute pas vraiment l'auteur des Lamentations dites de Jérémie. Et cependant, en effet, il y a une vraie cohérence entre l'état d'esprit d'une bonne partie du livre de Jérémie et ses plaintes qui déplorent en fait la perte de Jérusalem et sa punition, on dit même, c'est un peu étonnant pour nous aujourd'hui, sa punition par Dieu à cause de ses péchés. Et les Lamentations insistent, avec beaucoup d'autres textes de l'Ancien Testament, hein, sur la dévastation en fait qui est le sort de la ville sainte.
Est-ce que c'est pas un trait commun de... Je pense à Ézéchiel, bien sûr, mais à d'autres prophètes, que d'être à la fois prophète de malheur, selon là aussi une expression assez commune, et en même temps les prophètes de l'espérance.
C'est certain. Les prophètes sont des hommes. Il y a quelques femmes aussi qui portent le titre de prophétesse, mais
absolument,
on ne sait pas exactement ce qu'elles ont fait au temps biblique, en tout cas comme mission prophétique. Et en tout cas, Jérémie, comme les autres prophètes, dénonce le mal. Et il annonce aussi un avenir où Dieu prendra soin de son peuple. C'est assez étonnant parce que selon les pages, et parfois dans la même page, on trouve ce paradoxe. Voilà, à la fois, convertissez-vous, sinon, et c'est presque écrit comme ça, Dieu va tout détruire. Et en fait, c'est ce qui se passe. Et puis aussi, mais Dieu prépare un avenir pour vous. Jérusalem sera rebâtie. Et on pense aux prophéties d'Isaïe aussi, hein, qui dit que les fils et les filles de Jérusalem reviendront vers elle, qui est illuminée par la gloire du Seigneur. Voilà. Alors, il y a vraiment ces deux faces de la médaille dans une époque extrêmement compliquée. Et les prophètes sont bien des gens de leur temps. Et donc, ils ne peuvent pas juste annoncer un avenir radieux, alors que la simple observation, un petit peu comme aujourd'hui, de l'actualité, des difficultés sociales, des difficultés politiques, annonce à l'époque de Jérémie, donc autour de l'an 600, pour le dire à la louche, si vous permettez, il annonce des bouleversements et même la fin, en fait, de ce qu'on a connu comme royaume de Juda.
Il va en être le contemporain.
Il va en être le contemporain. Et même si... On n'a pas beaucoup de détails sur la fin de la vie de Jérémie, mais c'est intéressant de dire que donc son ministère commence probablement donc au temps du roi Josias, et donc vers la fin du 7e siècle, mais on connaît la grande date de 587, qui est la date de la deuxième conquête de Jérusalem par les Babyloniens, et de l'exil d'une bonne partie du peuple. Sauf que Jérémie fait partie des gens qui... Bien qu'il ait prêché la soumission à Babylone, donc l'envahisseur, eh bien, il se retrouve pris en quelque sorte en otage par les gens qui restent à Jérusalem, et ils vont même fuir vers l'Égypte après l'assassinat du gouverneur Godolias, en emmenant Jérémie de force avec eux. C'est assez, assez tragique quand on pense que Jérémie avait dit « Surtout, n'allez pas en Égypte, ne vous alliez pas avec l'Égypte, il faut rester dans ce pays et il faut aussi accepter de partir en exil à Babylone. »
Est-ce qu'on peut dire que dans le contexte actuel extrêmement mouvementé, douloureux, voire tragique, notamment de cette terre où il a vécu, est-ce qu'on peut dire que c'est un livre alors d'actualité ?
Malheureusement, oui. Parce que, en effet, les tragédies qui ne se disent pas tout à fait de la même façon dans notre pays et en Israël, en Palestine aujourd'hui. Ces tragédies rappellent vraiment la triste actualité. Et il ne faut pas s'arrêter là, en fait. Peut-être y aura-t-il une lecture théologique à faire des calamités qui s'abattent ou qui menacent, mais il faut garder aussi bien présent que Dieu promet un avenir à son peuple. De même qu'il avait annoncé un bonheur par la bouche de Jérémie, chapitre 29, hein, à ceux qui accepteraient d'être exilés à Babylone, de même Dieu n'abandonne pas son peuple et, sans condition, et on y reviendra, il leur promet une nouvelle alliance, un renouvellement total de cette relation d'amour, de cette relation pleine de promesses que Dieu entretient avec son peuple.
Mais c'est peut-être ça aussi une grande actualité, une grande aide pour nous, c'est-à-dire qu'au fond, au creux de la vague, au cœur de la tempête, eh bien, ils discernent une espérance parce que d'une certaine manière, Dieu est avec eux.
Oui, c'est la promesse qu'on entend presque à chaque page de la Bible. Et là aussi, on y reviendra, mais dès la vocation de Jérémie, il lui avait dit « Je serai avec toi dans toutes les adversités, je suis avec toi pour te délivrer ». Et cette promesse de Dieu à son prophète, elle est aussi pour tous ceux qui mettent en lui leur foi.
Bien, merci beaucoup.
Merci.
On va terminer sur cette parole d'espérance et de foi, cette première série de 4 émissions sur le prophète Jérémie, donc avec vous, l'abbé Cyprien Comte. Donc, rendez-vous la semaine prochaine, chers auditeurs.